Bien, nous pouvons commencer. Il est 10 heures, donc aujourd'hui je voudrais peut-être terminer cette première partie du cours qui était sur l'attention portée sur ce livre de Castiglione, Il Cortegiano, et en particulier sur les problèmes que posent à la fois la construction et la traduction d'une notion clé dans ce livre, celle de sprezzatura. Alors je vais d'abord, dans un premier temps aujourd'hui, puisque la semaine dernière nous avions analysé avec précision là, comment Boscan, en 1534, en castillan, avait traduit, et avec cette surprise, c'est le fait que sprezzatura ne lui posait pas un problème particulier, mais qu'en revanche, affettazione, dans l'original italien, posait une difficulté et qu'il inventait toute une série d'équivalents pour ensuite faire introduire ce mot dans la langue espagnole. Aujourd'hui, je vais d'abord commencer en revenant sur les traductions françaises, puisque la fois dernière, j'étais allé simplement à l'essentiel, c'est-à-dire comment un mot avait été choisi pour traduire sprezzatura, de façon à ce que, puisque nous avions des hôtes qui étaient cette classe de lycéens du lycée d'Aubervilliers, leur donner l'idée d'une chose un peu, d'un cours un peu terminé. Mais évidemment, il y a beaucoup plus à dire sur ces traductions françaises qui sont au nombre de deux, l'une en 1537, la première de Jacques Collin, et la seconde en 1580, qui est celle de Gabriel Chapuis. Alors, en 1537, paraît cette première traduction sous le titre « Les quatre livres du courtisan du comte Balthazar de Castillon, réduit de langue italique en français, avec privilège ». On peut avoir accès à cette traduction sous la forme électronique dans le corpus Gallica de la Bibliothèque nationale. Cette première traduction, donc, annonce sur la page de titre avec privilège. C'est un privilège qui a été donné le 23 avril 1537 à un libraire parisien, un libraire qui est présenté dans le privilège comme marchand et bourgeois de Paris, qui s'appelle Jean Longis, L-O-N-G-I-S, et qui demande un privilège pour imprimer, je cite ce livre, et il le dit, « pour donner consolation et passe-temps aux gens nobles d'honneur et de bien de notre royaume ». Et ce privilège lui est donné pour 3 ans, et vous voyez que « gens nobles d'honneur et de bien » peut ouvrir au-delà du seul milieu de la cour, et qui est une cour, évidemment, dans ce moment-là, qui n'a rien à voir avec la cour telle qu'elle sera sous Louis XIV, donc de donner ce livre qui peut être un modèle pour une classe aristocratique, mais définie comme par l'honneur et par le bien. Et l'on voit dans le livre que le privilège a été transféré ensuite à un imprimeur de Lyon, qui s'appelle Denis des Arcis, et c'est lui qui publie ce texte. Et là, il n'y a aucun texte préliminaire dans cette édition. Après la page de titre, commence tout de suite la traduction de l'épître dédicatoire à l'évêque de Viseu, qui, vous vous souvenez, était le premier texte dans le livre italien de Castiglione. Le traducteur n'apparaît pas non plus, on l'identifie autrement, et il n'est pas celui qui demande le privilège. Celui qui demande le privilège est ce libraire imprimeur de Paris, enfin ce libraire de Paris. Jacques Collin est un secrétaire et lecteur du roi, ce qui était un office à la cour des rois de France, c'est-à-dire secrétaire, donc au sens de rédiger ce que les rois pouvaient avoir à dicter, mais aussi de lecteur, c'est-à-dire le fait de faire la lecture à haute voix au roi au moment du coucher ou au moment du dîner. Et c'est une habitude forte dans toutes les cours européennes. Dans le cas français, elle prend la forme d'un office de cour qui est l'office de lecteur du roi. Et en même temps, Collin est un traducteur, il a traduit du latin, il est un traducteur d'Ovide, et il a traduit de l'italien, un autre texte que Castiglione, qui est la Jérusalem délivrée du Tasse. Alors dans cette Dans ce livre, j'extrais évidemment le point central pour le propos du cours, une histoire des mots donc des concepts et des notions, qui est lorsqu'il affronte la question de la sprezzatura, c'est à la page 27, et il indique ainsi, « Je trouve une règle très universelle, c'est de fuir le plus que l'on peut comme un très âpre et périlleuse roche, l'affection, et comme je disais, en fait, une faute typographique pour l'affectation, et pour dire peut-être une parole neuve, de user en toute chose d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et qui montre ce que l'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. » Et un peu plus loin, vous vous souvenez, il y a ce passage où, pour montrer que cette sprezzatura peut être corrompue lorsqu'elle est elle-même affectée, alors qu'elle devrait être le contraire de l'affectation, ceci avec les exemples donnés des orateurs grecs qui faisaient semblant d'être ignorants, ou de l'attention extrême que l'un des membres de la cour, Pierre, Paul, mais qui ne participe pas aux conversations, montre lorsqu'il danse. La traduction que choisit Colin est la suivante, c'est celle d'opposer la mauvaise grâce de l'affectation et la bonne grâce, en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents, de cette nonchalante agilité, c'est comme ça qu'il traduit sprezzata desinvoltura, car est-ce mouvement du corps, on l'appelle ainsi. Donc voilà le point de départ, c'est cette traduction de 1537 et qui est reprise l'année suivante, 1538, une réédition qui, elle, est accessible dans la forme électronique dans la Bibliothèque virtuelle humaniste, qui est une magnifique entreprise du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours. Et il y a un nombre considérable d'éditions du XVIe siècle qui sont accessibles absolument gratuitement. Donc, je vous conseille, c'est Bibliothèque virtuelle humaniste. Et vous pouvez trouver là à la fois les textes dans leur état du XVIe siècle, avec une reproduction photographique, et d'autre part avec une transcription qui parfois rend la lecture plus facile. C'est un énorme répertoire déjà constitué. J'en extrais donc la réédition. Ils n'ont pas pris l'édition de 1537, puisqu'elle existe dans Gallica. La réédition donc, se présente sur la page de titre comme, on est habitué à cela, nouvellement revue et corrigée. Le titre est devenu « Le courtisan de Messire Balthazar de Castillon ». Le privilège a été donné à un imprimeur de Lyon, François Juste, pour 3 ans. Et dans cette présence de l'imprimeur, on la voit à la fin du livre, puisqu'il écrit et imprime une épître finale qui finalement reprend, donne une raison de l'histoire de cette édition, puisqu'il se plaint lui-même d'une édition parisienne qui a devancé celle pour laquelle il avait eu un privilège. Et il termine, ce qui nous fait entrer dans l'atelier typographique, dans un certain sens, pour l'idée que le livre qu'il produit est un livre très élégamment et convenablement imprimé, et en même temps qui s'oppose donc à ce qu'il dénonce dans l'édition précédente comme une impression en gros caractères desquels déjà longtemps on n'use plus aux bons auteurs. C'est-à-dire, c'est toujours des caractères romains, mais le caractère de 1537 a un aspect plus archaïque et plus maladroit, alors que l'édition de 1538 est présentée avec cette élégance et cette grâce dans le caractère lui-même. Ceci est en rapport avec un texte que l'on rencontre dans cette édition, qui est un des préliminaires, et qui est un texte signé par Étienne Dolay, imprimeur, libraire à Lyon, humaniste, auteur de textes fondamentaux sur la ponctuation, telle qu'elle doit être observée dans les éditions imprimé. Et clairement, Dolay est impliqué dans la publication de ce livre et en particulier dans l'établissement du texte. Dans son épître dédicatoire, elle est adressée à un de ses amis, qui est un poète Saint-Gelais, Merlin de Saint-Gelais. Le texte commence ainsi. « Ami, il te peut souvenir, comme dernièrement, en cette ville, lisant le courtisan du comte Balthazar de Castillon, y trouvâmes plusieurs fautes et lieux omis à l'interprétation. » Donc, c'est la lecture de l'édition de 1537, qui non seulement pour l'imprimeur est grossière et sans élégance, mais pour Dolay, elle est avec des fautes et des passages qui ont été oubliés. Depuis, il a été revu par aucun de bon jugement, lesquels m'en ont donné la copie, et moi à l'imprimeur, après avoir tout revu. Donc, Dolay s'implique comme une sorte de copy editor, de celui qui établit définitivement le texte après avoir reçu la copie corrigée par, on ne sait pas, des personnes de bon jugement, qui permettent donc du coup une édition meilleure. Et autre trait intéressant pour l'histoire du livre, ensemble, l'autorité du privilège qu'il a plu au roi me donner, touchant mes œuvres et autres que je reverrai et illustrerai. Donc, Dolay, là, a demandé un privilège pour ses œuvres, et finalement, ce privilège, pour lui, signifie qu'il couvre à la fois des œuvres qui sont de sa plume, mais aussi des œuvres qui sont celles qu'il édite au sens d'établir le texte. Et il continue. En ce toutefois ne veut empêcher que tous imprimeurs n'impriment tout ce que bon leur semblera, mais que ce ne soit sur les copies qui sortiront de moi et qui seront différentes de la vulgaire et commune. Donc ce privilège, dont il donne une acception très étendue, pour lui n'est pas foncièrement lié à une question économique, mais elle est liée à la question de l'établissement correct du texte. Il veut empêcher personne de publier les livres, mais à condition que ce soit à partir de la copie que lui-même a établie et qui est protégée par le privilège. Mais on voit qu'il s'intéresse moins au privilège de librairie comme assurant le monopole sur l'édition d'un texte durant une certaine durée, 3 ans par exemple dans ce cas-là, mais plus à l'idée que, garanti par le privilège, le texte qui va circuler est bien le sien, celui qu'il a établi, et que c'est celui-là et celui-là seulement qui doit servir pour d'autres éditions, laissant entendre qu'il pourrait violer ces autres éditions le privilège qu'a reçu libraire. Et donc, on a cette implication, et le problème qui est derrière est évidemment la définition de qu'est-ce qu'un auteur au XVIe siècle, l'idée fondamentale étant de briser avec une projection anachronique qui consiste à penser que l'auteur est l'écrivain et qu'il y a une relation directe et univoque entre cet écrivain et le texte qu'il a écrit. On voit ici, je l'avais déjà évoqué la fois dernière avec Boscan et Garcilaso de la Vega, le fait que dans un même livre, deux auteurs peuvent publier leurs œuvres et que le nom qui est sur la page de titre peut être le nom de l'un, Boscan, ou le nom de l'autre, Garcilaso de la Vega. On voit qu'ici, avec Dolay, la notion même d'auteur s'étend non seulement des œuvres qu'il aurait lui-même composées, mais à toute autre forme de publication où il se trouve impliqué, ce peut être comme traducteur, ce peut être comme éditeur, dans ce sens éditeur de texte. Et parfois, cette place d'auteur peut être aussi l'objet d'une compétition entre celui qui a composé un texte de sa plume ou l'établit un texte d'un autre auteur et le libraire-imprimeur, au sens moderne mais anachronique d'éditeur, qui peut revendiquer d'être l'auteur du livre. C'était le cas, par exemple, d'Antoine Vérard à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, qui mettait son portrait dans les ouvrages avec l'auteur, comme si finalement l'auteur n'était pas seulement celui qui a écrit ou traduit ou établi le texte, mais était celui qui fait que ce texte participe d'une totalité plus grande et qui est le livre dans lequel des choix sont à faire, qui ne sont pas seulement textuels, mais qui sont des choix sur le format, les caractères, la mise en page, l'organisation du texte, sa distribution, son découpage. Et on oublie souvent cette acception d'auteur, non pas au sens moderne de qui a écrit un texte, équivalent avec l'écrivain, même si certains écrivains vont jouer sur cette distance entre l'écrivain comme personne individuelle, singulière, et l'auteur comme nom propre, qui est imposé de l'extérieur par la publication, par le public, par les lecteurs. Texte fameux de Borges, Borgesillo, le nom propre, Borges, et les relations très complexes, contradictoires, ambiguës que le « yo », le « moi », l'écrivain, entretient avec ce nom propre. Mais néanmoins, on est dans un moment, dans un paradigme dans lequel auteur et écrivain, même s'ils peuvent avoir des tensions, sont une seule et même personne. Il n'en va pas du tout de même au XVIe, XVIIe siècle. La place de l'auteur peut être occupée par de multiples acteurs dans le processus de publication. Et encore particulièrement fort de cette définition, c'est le cas du théâtre, en particulier de la comédia en Espagne, où el autor de comédia n'est jamais, ou presque jamais dans les textes, celui qui a écrit la pièce, mais toujours, ou presque toujours, celui qui, comme le directeur de la troupe, assemble tout un ensemble d'éléments. Le texte est un d'entre eux, mais les autres sont la location du choral où on va jouer la comédia, sont l'organisation de la représentation, les décisions sur les rôles, les costumes, les éléments assez limités du décor. Et l'auteur, le dramaturge au sens moderne, s'est désigné comme poeta, ingenio, mais pas autor de comédias. On voit donc qu'on a là un point qui est intéressant. Et l'idée est évidemment de toujours articuler un commentaire des textes avec une analyse des formes, des raisons et des acteurs qui assurent la publication. Alors on en vient à la passage clé, la sprezzatura. Dolé disposait donc de la traduction de Colin, qui était celle que vous avez entendue, où le mot était traduit par nonchalance, et il le reprend sans rien changer. Affectation va apparaître 17 fois dans la traduction, et nonchalance avec un seul L ou deux L, peu importe, autre trait du temps, c'est-à-dire une instabilité des graphies. Apparaîtra 9 fois et il reprendra nonchalante agilité pour le passage sur la sprezzatura tournée en son contraire. On a donc un premier contexte que j'avais rappelé rapidement la fois dernière. On a, pour situer les mots dans leur champ sémantique historique, deux instruments. J'avais signalé le trésor de la langue française avec cette limite que ce sont essentiellement des exemples d'emploi des 19e et 20e siècles qui sont donnés dans le trésor de la langue française, aussi accessible gratuitement dans ce cadre sur Internet. Et donc il y a simplement quelques rappels en bas de notice sur l'étymologie ou les premiers usages de ces termes. Le deuxième instrument très utile, c'est une banque de données de Chicago qui s'appelle ARTFL, A-R-T-F-L, Frontext, qui, elle, n'est pas d'accès libre, mais qui a, c'est sûrement à partir de textes du 18e, donné, transformé en forme numérique un grand nombre de textes français et qui permet une recherche du vocabulaire. Alors, l'intéressant est que nonchalant, comme je le disais, dérive d'un verbe qui est rare, qui est un verbe employé à l'époque médiévale, mais qui s'emploie très peu dans une conjugaison normale, qui est nonchaloir. Mais ce qui en a, et qui signifiait négliger, mépriser, ne pas porter attention, et qui est devenu utilisé simplement dans la forme du participe présent, nonchalant. On a dans la banque de données des textes français du XVIe siècle, telle qu'elle est présente dans Hartfeld, l'apparition pour la première fois, semble, enfin dans le premier texte qui le cite dans cette banque de données comme l'équivalent de négligence, de 1547, et puis un texte de 1575 comme oubli, ignorance. Un auteur qui emploie très souvent nonchalance, c'est Montaigne, qui finalement, dans le cas de ses emplois, donne un sens plutôt que négatif. C'est un défaut, un manque de soins, et qui est considéré même comme un vice contraire à la curiosité. Donc on a bien là, dans Montaigne, la reprise de ce que l'on a déjà vu avec l'espagnol, c'est-à-dire que la curiosité peut être liée à l'affectation, ou les synonymes de l'affectation, et en même temps, le contraire de cette curiosité comme affectation, mais qui chez Montaigne n'est pas nécessairement négative, serait cette nonchalance qui laisse tout aller à l'abandon sans un contrôle, une conscience de ce qui est fait. Et dans Montaigne aussi, on voit, donc dans les années 1580, les premières éditions des essais 1580, on voit le possible retournement de cette nonchalance de vice, de défaut, à quelque chose qui serait plus positif, qui serait considéré comme ce qui s'oppose à la servitude. Il y a en particulier une phrase représentée en parlant une parfaite nonchalance et des mouvements fortuits et imprévus. Et il opposera que cette nonchalance, dans d'autres occurrences, à ce qui est défini comme le manque de liberté. La nonchalance devient opposée à la servitude et donne cette air de détachement ou de liberté que l'on peut ou l'on doit rechercher. Donc on voit que dans les emplois chez Montaigne, on aurait la mise en place de ce que j'essayais de décrire la fois dernière, c'est-à-dire ces processus qui font qu'un mot pris dans un sens négatif, de défaut, de vice, de manque, peut acquérir une valeur positive dans un contexte particulier. Dans le contexte du castiglione, c'est le contexte d'une langue, d'un lexique aristocratique ou de cour qui, justement, se caractérise ou se distingue parce qu'il donne aux mots des sens qui ne sont pas leur sens commun ou ordinaire. Et dans le cas de Montaigne, c'est peut-être de partir de la définition, dans certains usages, la plus attendue, la plus classique, celle qui donne la nonchalance comme un vice, comme un défaut, et réintroduisant une dimension qui n'a rien à voir avec la cour, mais qui a à voir avec une sorte de liberté de la conduite, de la parole, d'investir le terme de nonchalance de cette valeur contraire à la servitude. Maintenir une liberté dans les actions et le visage, donc dans les traits, est ce qui caractériserait la nonchalance lorsqu'elle est positive. On a donc là, aussi d'autre part, dans cette traduction de Collin qui n'est pas retouchée par Dolet, entre 1537 et 1538, l'usage d'affectation plus attendu, qui ne surprend pas en français, qui surprenait Boscane, et le mot affectation est un mot qui appartient au langage de la rhétorique poétique, c'est-à-dire ce qui introduit dans un texte de la recherche visible pour un effet, de l'étrangeté, de quelque chose qui est contraire au naturel. Et d'ailleurs, c'est ce contexte d'emploi que l'on trouverait chez Montaigne, c'est-à-dire dans la rhétorique, dans la poésie, ce qui est contraire à la retenue, qui est contraire à l'élégance et à la et au naturel. Et il prend dans une des citations extraites des essais cet exemple des poètes ibériques qui sont accusés de cet excès de maniérisme et qui est décrit comme de l'affectation, et aussi certains Français de ce siècle. Alors, on a en français une seconde traduction, donc près de 40 ans après, en 1580, qui est la traduction de Gabriel Chapuis, qui est d'abord publiée à Lyon, et en 1585, réédité à Paris, et cette réédition est accessible sur Gallica, Samson et Gallica. Donc la nouvelle traduction de 1580 a pour titre donc Le parfait courtisan du comte Balthazar de Castiglione. On voit qu'il y a une petite inflexion du titre, puisqu'on introduit dès le titre l'idée qui porte le premier livre, de faire un portrait d'un courtisan parfait. Et cette édition est particulièrement intéressante parce qu'elle propose un dispositif typographique et linguistique tout à fait nouveau. C'est-à-dire que dans cette édition, on a le texte en deux langues, le français et l'italien. Elle est présentée comme S deux langues, répondant par deux colonnes l'une à l'autre, pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une, dit-elle. Donc, d'avoir un texte en italien et un texte en français permet à la fois le contrôle de la traduction pour le lecteur, s'il connaît les deux langues, permet aussi, on peut le penser, une ouverture du marché pour le livre, c'est-à-dire pas seulement parce qu'il décrit un parfait courtisan ou les manières qui doivent être celles d'un monde aristocratique, les hommes de bien et d'estime, d'honneur, mais aussi parce qu'il peut permettre à ceux qui, par exemple dans le marché en France, veulent apprendre, connaissent l'italien, de pratiquer une sorte d'exercice permanent dans la lecture du livre de Castiglione. Et dans cette édition de 1585 de Bonfons, Nicolas Bonfons, à Paris, on voit effectivement, si vous ouvrez le livre sur deux pages, le texte français sur les deux marges et puis les textes italiens en deux colonnes. Donc on a comme une structure avec le livre ouvert, quatre colonnes, le français en serrant le texte italien. Et avec cette idée qui va se cristalliser au XVIe siècle, c'est que l'on peut donner aux langues un caractère typographique particulier. Le texte italien est publié, imprimé en italique, une forme d'écriture qui avait d'ailleurs été inventée dès l'époque du manuscrit, mais qui s'est développée chez les imprimeurs, en particulier les imprimeurs italiens, pour non seulement, évidemment, des textes en italien, en toscan, mais aussi chez Aldemanus, les textes en grec ou en latin, des classiques. Donc il y a une identité italienne de l'italique, en quelque sorte, et le texte français, paradoxalement, est publié en caractère romain, mais à partir des années 1530, la lettre romaine a pénétré et est devenue la forme dominante de la publication en français, marginalisant de plus en plus, sauf dans des éditions populaires, les caractères gothiques, et l'italique étant d'un usage beaucoup plus typique, limité et ciblé dans le cadre de la typographie française. D'autre part, on a à la page de titre de la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau et le nom donc du libraire éditeur Nicolas Bonfons. J'ai toujours pensé qu'on ne lisait pas assez les pages de titre parce qu'elles sont extrêmement denses et riches en indications, à la fois sur les mécanismes de la relation entre la composition du texte et la publication du texte, avec les noms des auteurs, des traducteurs, éventuellement des commentateurs, et puis d'autre part, les noms des libraires ou des imprimeurs éditeurs, et que d'autre part, on voit ici, elle annonce à la fois le thème, le parfait courtisan, et d'autre part, cette structure qui sera celle du livre, deux colonnes se répondant l'une à l'autre. Dans cette édition, on trouve des textes préliminaires et en particulier une épître dédicatoire à un conseiller du roi en son conseil privé, qui était en même temps bailli de Chalon-sur-Saône. Et c'est une lettre du traducteur, Gabriel Chapuis, qui dédie à ce personnage, Nicolas de Beauffremont, sa traduction. Et le texte est aussi très intéressant, et c'est toujours une autre chose, qui, dans ce sens-là, les éditions électroniques rendent un grand service, puisque très souvent, dans des éditions modernes, les éditeurs ne prenaient pas intérêt à publier avant le texte ce qui sont les préliminaires dans le livre. Ce qu'une autre, un autre discours appellera du péritexte, ce qui est le texte avant le texte. Et très souvent, ces textes qui sont signés par l'auteur, même si quelquefois il n'a pas composé l'épître de dédicace qu'on lui attribue, ou par le libraire éditeur, ou par l'imprimeur, qui sont aussi les textes qui règlent le privilège ou la permission, sont d'un très grand intérêt pour de multiples aspects, c'est-à-dire à la fois le récit de la publication, la localisation du texte dans un genre ou dans un autre, et par exemple ici, dans cette dédicace de la traduction du parfait courtisan, les raisons pour lesquelles elle a été entreprise. Et Gabriel Chapuis, j'en dirai un mot un peu plus tard, explique qu'on va s'étonner qu'il traduise le courtisan, puisqu'il y a déjà plusieurs autres précédentes, mais, dit-il, imparfaites. Plusieurs autres évoquent peut-être la distinction entre l'édition de la traduction de Colin 1537 et la traduction de Colin plus ou moins révisée, on a vu que pour Sprezzatura, ce n'était pas le cas, par Dollet en 1538. Alors, Chapuis revient sur cette question. Aucun diront, donc certains diront, que je n'avais que faire de traduire ce livre qui a déjà été traduit plusieurs fois par le passé. Mais, il ajoute, comme il est impossible de trouver, sinon en vous, il s'adresse à celui à qui il dédie le livre, un courtisan si parfait que l'on nous le décrit en ce livre, il est bien malaisé aussi d'en faire une traduction, laquelle à tous semble parfaite et accomplie en tout point. Et se trouveront par aventure aucun de ceux lesquels me condamnant devant que d'avoir vu, donc il va être condamné avant même que le lecteur lise sa traduction, ils auront recours, ceux-là, à la vieille traduction, celle de 1537, plutôt qu'à la mienne. Alors, bon commandement, chacun n'est tenu de lire que ce qui lui plaît. Donc, ici, il y a un jeu qui est les jeux de ses dédicaces, où il faut louer le dédicataire. Et ici, le jeu est, il n'y a pas de parfait courtisan, sauf vous. Et d'autre part, il n'y a pas de parfaite traduction du courtisan, sauf peut-être la mienne, ce qui est implicite dans le parallèle. Et ceux qui ne voudront pas le croire, eh bien, ils pourront lire, s'ils le veulent, l'ancienne traduction, celle de Colin. Mais il ajoute, « Je ne veux pas dire pourtant que ma translation française soit parfaite et ne la garantit pas telle, pour ce que c'est une chose fort difficile, non seulement de traduire, mais aussi d'écrire et composer et tout autre chose, quelque chose que ce soit, avec telle perfection, du fait des lourdes fautes qui surviennent ordinairement en l'impression des copies écrites à la main, comme était celle-ci. » Alors c'est un texte intéressant, puisque non seulement Chapuis lie l'imperfection de sa traduction à la difficulté de traduire Castiglione, mais aussi à l'inévitable série de corruptions, d'erreurs qu'introduit le processus d'impression des textes, C'est un thème classique, c'est-à-dire l'idée que le texte est déformé, corrompu par son processus de publication, en particulier que les erreurs commises par les typographes, ce qu'on appelle compositeurs, lorsqu'ils composent à partir d'un texte manuscrit des pages imprimées. Mais ici, ce qui est ajouté, qui est intéressant, l'impression de copies écrites à la main comme était celle-ci, ça ne veut pas tellement dire, à mon avis, que c'est une copie que lui avait écrite. On sait que la plupart des manuscrits utilisés dans les ateliers étaient des copies de scribes, de secrétaires. On l'a vu, on a 5 manuscrits italiens de Castiglione. Un seul est le manuscrit autographe et les 4 autres sont des copies d'un ou plusieurs scribes. Un des manuscrits a été copié par 4 mains différentes. Donc je pense que ça n'implique pas du tout que l'imprimeur ait utilisé le manuscrit de Gabriel Chapuis, mais ça fait plutôt allusion au fait que la plupart des éditions sont des éditions faites à partir d'exemplaires déjà imprimés. On est dans un monde où les tirages sont limités, 1250, 1500 exemplaires, parfois moins, 1000. Et donc, si un ouvrage a du succès, la seule possibilité, c'est de le réimprimer, soit sous le couvert du privilège, si c'est le même imprimeur-éditeur, soit par un autre, une fois le privilège expiré. Mais dans tous les cas, le travail typographique commence par prendre un exemplaire de l'édition imprimée antérieure, même s'il y a eu des corrections, des transformations, pour composer à partir de quelque chose qui est déjà composé. Et donc, c'est plus facile pour l'ouvrier typographe de composer à partir d'un texte imprimé. Et d'autre part, on peut, s'il y a peu de corrections, respecter les mises en page ou les découpages tels qu'ils étaient dans l'édition antérieure. C'est pour ça que l'expression « corrigé »,« nouvellement corrigé » est très souvent un argument publicitaire qui ne correspond pas nécessairement à une réalité textuelle par le fait que l'on compose à partir d'exemplaires déjà composés. Alors donc, ce que vise Chapuis, c'est que la tâche est un peu plus difficile et donc explique ces erreurs lorsque l'on compose à partir d'un manuscrit, pas forcément autographe, mais même de scribe. Et donc, du coup, l'évocation, il a... Alors, ce Gabriel Chapuis est un personnage intéressant parce qu'il traduit ce phénomène qui apparaît dès les années 1530 et qui est une professionnalisation de la traduction. Il n'est sûrement pas un traducteur professionnel comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui vivrait entièrement de sa plume traductrice. Puisque au moment où il établit cette traduction de Castiglione en 1580, il est à Lyon où il est né, et il est désigné dans des documents notariés comme prolecteur d'imprimerie, ce qui veut dire le correcteur des épreuves, celui qui participe à la correction des épreuves. Puisqu'un livre, avant d'être imprimé en 1000 ou 1250 ou 1500 exemplaires, on en donne 3 exemplaires qui sont soumis à la correction des épreuves. Et la correction des épreuves passe par le fait qu'un lecteur lit le texte tel qu'il vient d'être imprimé et le correcteur suit ce texte sur la copie d'imprimerie, soit un exemplaire imprimé antérieur, d'une édition antérieure, soit un manuscrit. Et donc, être prolecteur d'imprimerie, c'est sans doute ce rôle d'être le lecteur des épreuves lors du processus de la correction. Il va quitter Lyon en 1583 pour Paris, et là, il deviendra garde de la bibliothèque du roi, puis secrétaire interprète du roi. Dans la mesure où il a une connaissance des langues, en particulier de 2 langues essentielles pour le XVIe siècle, l'italien et l'espagnol. Lorsqu'il donne cette traduction en 1580, réédité 1585 de Castiglione, du côté italien, il a déjà traduit le Orlando Furioso, le Roland Furieux de l'Arioste, en 1576. Il a traduit de Donni Les mondes célestes, terrestres et infernaux, un livre de 1578, et il a traduit de Guazzo la civil conversazione, la conversation civile, qui est un traité de civilité, mais qui participe du même horizon que la réception de Castiglione en 1579. Et du côté espagnol, il est un des nombreux traducteurs qui a contribué à la traduction des romans de chevalerie, à commencer par l'Amadis de Gaulle et ses suites, et il en a traduit en 1577-78 les livres qui vont du 15e jusqu'au 18e livre. C'est donc un traducteur déjà établi avec des textes fondamentaux, Amadis de Gaulle et Orlando Furioso. Et à partir de sa venue à Paris, il développera cette pratique de la traduction. Et je dis professionnel parce que ça ne veut pas dire que l'entier de ses revenus vient de la traduction. Il a des offices. Il est garde de la bibliothèque du roi, il est secrétaire, interprète du roi. Mais la professionnalisation est le fait que les traducteurs sont payés, rémunérés en argent, alors que beaucoup des auteurs des autres livres reçoivent des exemplaires de leurs livres qu'ils vont ensuite utiliser comme élément dans des relations de protection, de patronage, de mécénat. Mais il n'y a pas de rémunération monétaire. Le libraire ou l'imprimeur éditeur s'engage à fournir un certain nombre d'exemplaires, s'engage parfois aussi à ce que certains de ces exemplaires soient à ses propres frais reliés et ornés avec luxe, mais il n'y a pas de clause de rémunération monétaire, alors que les traducteurs ont cette rémunération monétaire. Et on voit apparaître avec les contrats entre traducteurs et libraires ou imprimeurs-éditeurs des éléments de la modernité de l'édition, par exemple des avances données avant même que le manuscrit ait été remis en son entier, ou même quelquefois, vu le succès par exemple des romans de chevalerie, le commencement de l'impression avant même que la traduction soit finie, ce qui est tout à fait exceptionnel et rare. Et donc, dans cette professionnalisation, dans ce sens-là, Gabriel Chapuis est une des figures les plus fondamentales. Il va traduire Boccace, il va traduire aussi, du côté espagnol, un des grands romans picaresques, le Guzmán de Alfarache, de Matteo Alemán, et il va traduire aussi Thérèse d'Avila. Il y a un collègue bibliothécaire qui s'appelle Jean-Marc Deschaux qui a publié chez Droz une bibliographie des ouvrages et des traductions de Gabriel Chapuis et en 2014, et Chapuis est l'auteur de 67 traductions entre 1574 et 1612. Il meurt en 1613. Alors Gabriel Chapuis donc se confronte à Sprezzatura, qui peut lire comme nonchalance dans la traduction de Colin. Et il va reprendre, mais avec une petite nuance, puisque dans la phrase « il faut user de », il va dire « il faut user en toute chose d'un certain mépris et nonchalance ». Et dans le second passage, le passage de la Sprezzata desinvoltura, il va aussi ajouter, je l'avais signalé la fois dernière, opposer la mauvaise grâce de l'affectation et la contenance en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité et trépignement, dans ces mouvements du corps, on l'appelle volontiers ainsi. Donc, mépris, qui est ajouté comme équivalent de nonchalance, apparemment donc du coup un renforcement du sens négatif, mais en même temps un renforcement de l'usage paradoxal du terme, puisque là, comme sans doute Boscan, lorsqu'il utilise desprecio, Chapuis a en tête quelque chose qui pourrait se rapprocher du es privatif, de sprezzare, disprezzare. Et donc du coup, mépris s'oppose à prix. Et il s'approche, du coup, de ce qu'avait été l'opération, on pourrait dire, linguistique de l'auteur italien de Castiglione. Mépris, c'est ne pas attacher de prix. c'est ne pas attacher de valeur, ne pas attacher d'attention. Dès le XIVe siècle, le mot est employé en français comme aussi indigne d'estime. Puisque, et donc, dans cet usage, Chapuis renforce le paradoxe et d'autre part se tient plus près, comme Desprezio, d'une traduction qui garde quelque chose du prezzare, même si c'est un prezzare nié du texte de Castiglione. Et on voit que, du coup, on a cette utilisation, et à la même époque, chez Montaigne, on a l'utilisation ordinaire du terme, mais on a aussi cette utilisation qui acquiert une valeur positive, non pas nécessairement dans cet détachement aristocratique des manières des courtisans, mais dans une sorte de détachement moral, ou stoïcien ou chrétien, comme on voudra. Mépris, Montaigne emploie très fréquemment, mépris de la vie, mépris de la mort, mépris du monde. Et ce qui devient négatif, c'est lorsque l'on exagère. Il y a une citation dans laquelle il dit, en parlant du mépris du monde, vieille figure du contemptus mundi, du retrait hors du monde, certains s'y sont plu jusqu'à l'affectation. On voit donc que là, le mépris, qui pourrait être un parallèle moral dans le détachement à cet usage mondain dans la société des courtisans d'Urbino et d'autres, devient positif à condition de ne pas aller jusqu'à l'affectation. Et sinon, il y a aussi mépris des richesses. On voit que le mot a cette possibilité de glisser d'un sens tout à fait négatif à quelque chose qui marque le détachement à condition de ne pas aller jusqu'à l'affectation. Et dans l'autre passage que traduit Chapuis, et il ajoute le mot contenance à la place de grâce qui était dans la traduction de Colin, la contenance qui va devenir un mot clé de tous les traités de civilité, c'est la manière de se tenir, la manière de se comporter. Et donc là, la contenance est implicitement gracieuse parce qu'elle manifeste cette nonchalante agilité dans les exercices du corps. Et comme je l'avais dit, un peu surprenant, l'idée du trépignement, mais l'idée simplement là pour renforcer le fait qu'il emploie ces mots dans un contexte de discours particulier, spécifique, qui est la danse et les exercices du corps, trépignement, frapper du pied contre le sol. Et là, c'est presque inverse, que le mot peut acquérir une signification négative lorsque ce trépignement est excessif, irrité, intempestif. Alors la dernière remarque sur ces traductions françaises, c'est la différence entre donc, les livres de 1580 et de 1537-38, les deux premières éditions. On a vu une première différence. La traduction de Colin est traduction. Le livre de Chapuis est bilingue. Et donc on entre, et on verra la même chose en Angleterre, on entre vers cette idée que l'apprentissage des langues, et à l'époque, les deux langues qui sont les plus fréquemment apprises, soit dans les milieux aristocratiques, soit dans les milieux lettrés, soit dans les milieux marchands, sont l'italien et l'espagnol. Et donc, non seulement il y a la production en grand nombre de grammaires et de manuels pour apprendre les langues, mais il y a aussi ces publications bilingues qui permettent à ceux qui sont déjà entrés dans la langue de à la fois lire un texte et en même temps de s'exercer à la compréhension de la langue étrangère. Et donc on a du coup cette double utilité du livre traduit de Castiglione. Alors, l'italien sur le modèle du toscan, évidemment parce que c'est une langue des fondements des lettres modernes, Dante, Pétrarque, Boccace, et pour de nombreux gens, par exemple la poésie épique, une référence fondamentale. Pour le cas du castillan ou de l'espagnol, il y a à la fois l'intérêt pour des nouveautés, à la fois il y a le corpus des livres de chevalerie, il y a d'autre part les nouveautés, on va dire littéraires, avec anachronismes qui sont au XVIe siècle à la fois les romans pastoraux et les romans picaresques qui alimentent ces traductions et ce désir d'espagnol. Et il y a une autre raison qui est un thème que j'avais quelquefois traité dans ces cours, qui est le fait que l'espagnol passe pour la langue la moins imparfaite. Qu'est-ce qu'une langue parfaite pour le XVIe siècle ? C'est une langue dans laquelle tout ce qui s'écrit se dit et tout ce qui se dit s'écrit. C'est-à-dire que l'adéquation entre, et c'est un thème aussi de Castiglione, et dans le livre 1, quand le courtisan doit savoir à la fois parler et écrire. Donc dans le cas de l'espagnol, il y a la moindre distance, et du moins ainsi que la langue est perçue au XVIe et XVIIe siècle, une moindre distance entre ce qui s'écrit et ce qui se dit, à la différence de langues comme l'anglais ou le français, où il y a des lettres qui ne se prononcent pas, et où peut-être, au moins pensaient certains des poètes de la Pléiade, il n'y a pas un nombre suffisant de lettres ou de syntagmes qui permettent d'indiquer des prononciations rigoureuses et exactes. C'est une obsession de Ronsard, de penser qu'on devrait introduire en français le N avec tilde de l'espagnol, qui permet de bien indiquer les prononciations d'un mot comme « monseigneur », et non pas G-N, mais avec ce N, avec tilde, et aussi en même temps une simplification. Ronsard pensait qu'on pouvait supprimer un certain nombre de l'alphabet français sans le pratiquer nécessairement lui-même, mais de façon à réduire le nombre des graphies, et toujours avec cette idée d'une adéquation plus grande entre ce qui se dit et ce qui s'écrit, ce qui était donc le thème qui donnait valeur à l'espagnol. Alors, au-delà de cela, en 1580, non seulement on a le texte italien pour des lecteurs français, mais on a aussi, à la fin du livre, une table des principales matières et sentences contenues en ce livre, avec une référence aux pages du livre, un index. Mais un index qui est fait par ordre alphabétique, qui commence par « Abus des femmes » et qui se termine avec Zeuxis, puisque Castiglione évoque ce peintre qui avait utilisé trois femmes pour peindre une femme parfaite. Donc c'est un moment de la discussion sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce portrait du courtisan idéal. Il n'est pas identifié à un seul individu. Donc Zeuxis est ce peintre de l'Antiquité grecque qui est supposé avoir résolu ainsi la question. Et donc on a, au fil de cet ordre alphabétique, depuis Abus des femmes jusqu'à Zeuxis, les mots ou des formules qui apparaissent dans le livre. Pour les sujets qui nous intéressent dans cette étude ici, évidemment, il y a affectation, qui est définie comme « doit être fui pour avoir grâce », référence page 65. On a « courtisan doit être principalement sans affectation ». Et puis, il y a deux mentions de nonchalance. Nonchalance et affectation sont extrêmes. Nonchalance, quelque trop grande affectation. Et vous voyez qu'on retrouverait avec ces deux mentions de nonchalance, l'usage qui est la nonchalance, c'est l'opposé de l'affectation, mais d'autre part, un excès d'attention dans la nonchalance, paradoxe, peut ramener à l'affectation. Il n'y a pas mépris. Donc le terme introduit par Chapuis n'est pas relevé dans l'ordre alphabétique des matières. On voit donc ici que le livre prend un nouveau statut, c'est-à-dire avec ces tables, avec cette table, qui était tout à fait absente livre italien de Castiglione, dans l'édition 1528, on le transforme progressivement en un manuel, une anthologie où on peut repérer des avis, des conseils, des préceptes. Et c'est donc une lecture qui ne serait plus la seule lecture supposée par le texte italien, c'est-à-dire une lecture continue, où le lecteur entre dans la conversation des courtisans d'Urbino et y participe, et est comme présent dans leurs échanges, dans le mouvement même de leurs échanges, c'est-à-dire une forme de lecture continue correspondant à la structure théâtralisée du livre, où chaque courtisan est comme un personnage qui intervient, et j'avais essayé de montrer comment cela pouvait d'ailleurs entraîner le principe même du jeu, c'est-à-dire chacun contredit l'autre, et se déplace à la volonté d'Emilia et de la duchesse les sujets de conversation, le pafer courtisan, la langue, les rapports entre l'écrire et le dire, les supériorités de la sculpture sur la peinture ou l'inverse. Donc, il y a comme un mouvement qui fait que le lecteur est emporté ou est pris comme, finalement, le témoin de cette conversation. À partir du moment où l'on introduit ici, sous cette forme de table et dans n'importe quel autre livre, une possibilité d'une autre lecture, c'est-à-dire une lecture thématique, qui commencerait avec l'index, qui va dans le livre à chercher à telle ou telle page, le passage correspondant, qui donc devient, comme ici, affectation doit être fuie pour avoir grâce, nonchalance quelque trop grande affectation, devient détaché du discours, transformé en un précepte, en une maxime, en un aphorisme, en une sentence. On est face à un autre rapport avec le même texte et un rapport qui devient effectivement infiniment plus pratique, utilitaire, morale. C'est exactement la même opération qui a lieu dans la même période avec les lieux communs. Et finalement, on pourrait dire que cette table du Castiglione en 1580 en France est une forme d'anthologie de lieux communs qui se trouvent dans le livre. Et rappelez-vous, aux lieux communs, non pas dans ce sens abattardi ou affaibli du XIXe et du XXe siècle, mais dans le sens de la Renaissance, c'est-à-dire le lieu commun comme la vérité la plus universelle, la vérité la plus générale, donc la plus puissante, donc la plus sublime. Et on a avec cette table comme une lecture possible du texte sous la modalité des lieux communs. Et la même opération pouvait exister pour des textes poétiques ou des textes dramatiques, dans lesquels on voit des citations, des fragments, des sentences, c'est le mot du temps, sententia, extraites et recomposées, redistribuées sous des rubriques thématiques. Ce qui est une opération parallèle, puisque du coup, l'énoncé, au moins par exemple dans une pièce de théâtre, est totalement séparé de son moment dans l'intrigue, du personnage qu'il énonce, et est transformé, neutralisé ou universalisé sous la forme du lieu commun. Et on a là aussi une autre lecture, mais qui est si fortement considérée comme un modèle de la lecture de la Renaissance que dans les éditions imprimées elles-mêmes, ce qui serait un peu le cas avec cette table. Mais il y a d'autres exemples. Dans les éditions, par exemple, de pièces de Garnier à la fin du XVIe siècle, ou dans les éditions du théâtre élisabétain, à commencer par Shakespeare, ou dans l'édition de la pièce elle-même, pour faciliter le repérage du lecteur, les vers qui sont des lieux communs sont indiqués soit par un autre caractère, de l'italique si la pièce est en romain, de romain si la pièce est imprimée en italique, ou bien, comme on le voit dans les éditions françaises et anglaises, par des guillemets inversés, enfin, par des guillemets non fermés, au commencement de certains vers. Et le lecteur, du coup, est averti que les vers qui suivent sont de ce statut-là, c'est-à-dire d'une morale générale, d'une vérité universelle, que s'il veut, il peut les, il devrait les mémoriser, voire les copier dans ses propres cahiers de lieux communs. Et du coup, ça entraîne cette décontextualisation par rapport à l'intrigue et au personnage de ces citations, et ça attire quelquefois l'attention sur des vers ou des passages des pièces qui ne sont pas ceux que retiennent une autre tradition de lecture. Je pense par exemple que dans le premier quarto de Hamlet, il y a ces indications assez systématiques, et un des moments où fonctionne ce système des guillemets non fermés, qui ouvre simplement la phrase, sont retenus tous les conseils que donne Polonius à son fils Laërte lorsqu'il va aller visiter la France. Ce n'est pas un passage particulièrement puissant dans le Hamlet de la tradition, mais c'est un passage qui est entièrement sur des lieux communs. Il faut éviter les faux amis, il faut se garder de ceci, il faut prendre la précaution de cela. Donc ce passage est transformé par cette indication, comme étant un recueil là, d'une sagesse qui n'est peut-être pas sublime, mais en tous les cas pratique, utilitaire, et qui devient une forme de lieu commun. Et donc on peut dire que les tables ajoutées à des livres qui n'en avaient pas introduisent cette autre lecture possible qui modifie le statut du texte. Et on voit là qu'un texte, une œuvre, peut voir son sens transformé sans que sa lettre soit transformée, même si elle passe d'une langue à une autre, mais parce que le dispositif de sa publication imprimée implique, suggère cette transformation, au moins potentiellement. On peut aussi lire le Castiglione en français comme on lisait le livre de 1528, mais on peut aussi, grâce à cette table, le lire autrement, de manière segmentée, fragmentée, détaché, qui détache des sentences ou des passages. Et c'est une raison de plus, je crois, pour affirmer, ce qui est un peu l'idée de l'ensemble de ces réflexions ou de ces recherches, pour affirmer que l'on ne peut pas séparer l'analyse des textes de l'étude des livres. Donc on va suspendre peut-être 5 minutes, comme à notre habitude, jusqu'à 11h07, 11h08, et je passerai à ce qui est aussi un thème intéressant, important, et qui est comment les traducteurs anglais se sont confrontés à cette difficulté de la sprezzatura.